Bonsoir, Danny.
Salut, Mario.
Alors, est-ce que tu as vu du Canadien dans un match où ils affrontaient quelques-uns des meilleurs marqueurs-pointeurs de la Ligue, qu'on a tenu au silence presque complet, c'est-à-dire aucun but accordé à l'Avalanche du Colorado? C'est pas une performance là auquel la défensive du Canadien nous a habitués dernièrement. Et à quelques minutes d'un match contre les Bruins, est-ce que tu penses que c'est une recette qu'on va vouloir utiliser à nouveau ce soir?
Ben, quand tu as du succès, c'est toujours ce qu'on veut faire. Hein? On veut essayer de reproduire le succès en utilisant des grandes lignes directrices. Je pense que chez le Canadien, on veut avant tout recommencer à jouer de la même façon, c'est-à-dire beaucoup de vitesse en zone neutre, pas trop se casser la tête avec des jeux compliqués. Une chose est sûre, c'est que ce soir, le Canadien affronte une autre des équipes qui possèdent un premier trio de premier plan dans la Ligue nationale. Bon, l'Avalanche, c'est quand même une référence. C'est le trio le plus prolifique. Mais écoute, ici à Boston, là, depuis le début de la saison, c'est 138 points pour Bergeron, Marchand et Pasternak.
N'eût été des blessures, ils seraient peut-être les premiers d'année.
C'est ça, exactement. Donc, on sait que le Canadien va affronter une équipe qui marque beaucoup de buts, mais surtout qui de façon générale, est meilleur que ses derniers opposants.
J'ai vu quelque chose dans le match de samedi. Quand on constate que le Canadien tombe encore en dernière place par rapport à la puissance ou l'efficacité des jeux de puissance, j'ai vu des choses intéressantes que j'ai pas vues sur un jeu de puissance. Mais dans un premier temps, toi, as-tu aimé les nouvelles formules qu'on a utilisées pour l'avantage numérique, même si ça n'a pas donné de résultat comme tel?
Ben oui, écoute, moi, je suis partant. Là, quand ça fonctionne pas, j'adhère à ce que le coach a mentionné, mais tu sais, Claude Julien actuellement fait beaucoup d'essais, des choses, mais fondamentalement, il sait très bien que pour réussir en avantage numérique, il faudra que ses gros canons soient au rendez-vous. Tu sais, parce que tu peux avoir un Agostino en avant du filet en attendant, tu peux avoir ton mélange peut être différent, mais à la fin, ça reste tes joueurs qui font la différence. C'est eux qui vont faire basculer de façon positive l'avantage numérique. Ici, là, je te donne un chiffre juste comme ça. Là. Les Bruins de Boston, leur avantage numérique à la maison roule à un rythme de 33% d'efficacité, presque 34, 25 buts en 74 tentatives à la maison, sont deuxièmes dans la Ligue nationale. On sait très bien que l'équipe des Bruins est difficile à battre ici. Ils ont 16 victoires, seulement 6 défaites depuis le début de la saison, évidemment, en 22 matchs. Donc, le Canadien, c'est un peu la même équation. Le premier trio, depuis qu'il est réuni à nouveau dans les 10 derniers matchs, les Bruins ont marqué 11 buts en avantage numérique, mais en ont marqué 25 depuis le début de la saison. À la maison. Et il y en a 11 qui viennent de l'avantage numérique depuis que Bergeron est de retour dans l'alignement. Bien sûr, il y a des matchs à l'étranger là-dedans, mais on a quand même marqué 11 buts.
Hey, au total, 40 buts en avantage numérique en 45 matchs. Donc, les Bruins, c'est à peu près un but par match sur le power play. Écoute, imagine, prendre le Canadien, ajoute-leur un but par match en avantage numérique, ça va-tu aider à faire les séries, tu penses, Danny?
Effectivement, puis bien meilleure fiche à domicile aussi, là. Parce que c'est ça, quand... tu sais, au moment où on a rencontré Marc Bergevin, tu parlais avec, puis je pensais à toi, il a dit, écoute, moi, j'aimerais bien qu'on soit meilleur à la maison, qu'on ait une meilleure fiche.
Absolument.
Ça passe par l'avantage numérique.
Oui.
Ça passe par l'avantage numérique.
Parce qu'en principe, normalement, je sais pas si c'est des statistiques qui le valident, mais tu as l'impression que tu vas avoir un petit peu plus de compréhension des officiels sur la glace à domicile, ne serait-ce que l'influence des spectateurs. Mais en tout cas, faut pas toujours parier là-dessus ou gager là-dessus. Claude Julien qui disait qu'il considérait qu'il n'y avait pas le bénéfice du doute. On a abordé le sujet ensemble la semaine dernière. Dans ce que j'ai vu samedi, qui m'a inspiré des idées, puis j'espère que ça a allumé sans aucun doute quelque chose chez Claude Julien et Kirk Muller et Dominique Duchamp pour l'avantage numérique. Es-tu d'accord pour dire que quand on parle des difficultés du Canadien en surplus d'un homme, une de ces difficultés, il y en a un paquet, mais une des difficultés, c'est qu'on n'a pas de tireur sur réception. On a nos défenseurs, il y a Petrie, Weber, mais Domi n'est pas un bon franc-tireur sur réception. On s'entend. Drouin a pas un, est capable de lancer sur réception, mais comme il est un peu l'architecte puis l'animateur du jeu, il est pas dans cette situation-là souvent. Pacioretty n'était pas un grand tireur sur réception. Galchenyuk était capable de le faire, mais ratait sur le filet plus souvent qu'autrement. Mais moi, j'avais pas vu Kotkaniemi lancer sur réception cette année. Je le voyais pour la première fois, je pense, dans une situation comme celle-là. Ça me donnerait des idées pour mon attaque massive, parce qu'on l'a jamais vu dans une situation de tireur, Danny. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben, écoute, il est jeune un peu pour avoir cette responsabilité-là, ça, c'est sûr. Mais c'est clair que c'est un tireur, là. Il est capable d'avoir... si on le place dans cette position-là, il va avoir...
Ben, honnêtement, je pense que ça serait moins difficile pour lui d'être là dans une position de tireur que d'être dans celui qui anime le jeu. C'est à 18 ans, animer ou être le dessinateur ou l'architecte du jeu ou de la deuxième unité du jeu de puissance, me semble que c'est plus lourd que d'attendre l'occasion de tirer.
Ça dépend.
Ben, en tout cas, lui, il a démontré qu'il pouvait le faire samedi en fin de match. C'était à 5 contre 5.
Oui, oui. Et le jeu était dessiné, ça ressemblait à un jeu en avantage numérique dans la façon dont le but s'est marqué. C'est clair, c'est un gars qui a un bon tir sur réception.
Ça te donnerait pas envie de l'essayer, toi, dans ce rôle-là, de voir ça, parce que on l'a toujours vu en possession de la rondelle et shooter alors qu'il transportait la rondelle.
Moi, je vais te dire ce que je trouve là dans le jeu du Canadien de Montréal en avantage numérique, c'est que la vitesse à laquelle la rondelle bouge, c'est pas suffisant.
Je suis d'accord.
Et ça, c'est la première chose. Et le temps entre la réception de la passe et le tir, c'est trop long. Il y a beaucoup de joueurs qui gardent la rondelle une fraction de seconde avant de décider de lancer, alors que les meilleurs tireurs chez le Canadien, en avantage numérique pour moi, ça demeure Tatar, qui lui, quand il l'a sur le tape, ting, est parti, c'est automatique. Lui, là, c'est pour ça que j'aime Tatar sur l'avantage numérique. Il ne prend pas le temps, à moins que la rondelle ne soit pas bien placée pour qu'il puisse décocher, là. C'est le seul chez le Canadien qui décoche sur réception. Et à la défense, bien sûr, c'est Weber. Ces deux bonhommes-là, pour moi, ce sont les deux joueurs les plus efficaces. Ensuite, pourquoi le Canadien a un petit peu de difficulté? Je pense, très sincèrement, que ça, c'est en lien avec le choix de jeu. Donc, avec les quarts arrière. Comment il décide...
Il y a souvent des passes qui avortent. Et c'était une passe très risquée, d'ailleurs, que celle qui a réussi à Kotkaniemi, là, samedi. Oui. Écoute, il y en avait des palettes entre lui et le joueur, là.
Oui,
entre Drouin et Kotkaniemi, il y en avait du Sherwood, là.
Il y en avait. Puis à un moment donné aussi, ces joueurs-là, tu dois les laisser faire ce qu'ils ont à faire, dans le sens gérer le risque, parce que c'est eux qui sont sur la patinoire. Ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent et qu'est-ce qu'ils peuvent pas. Mais en même temps, moi, je trouve que au même titre qu'un passeur, quand tu vois qu'il n'y a pas de jeu, là, puis que les bâtons sont bien placés, dans sa tête, la première affaire, c'est pas « je veux faire la passe au gars à qui je veux atteindre notre joueur clé », mettons Tatar en l'occurrence ou Weber. Non, c'est « je dois faire déplacer ces gars-là ». Les bâtons doivent se déplacer. Je dois créer du doute. Je dois créer un peu de panique dans leur tête. Ils sont trop en confiance. Alors, ce qui fait ça, ce qui provoque ça, c'est le mouvement de la rondelle. Alors, là, automatiquement, il faut créer du mouvement avant de se replacer en situation de tir. Et ça vient pas chez le Canadien. La rondelle bouge pas assez. Alors là,
Danny, je t'arrête un instant parce qu'il faut qu'on fasse une pause publicitaire. Mais j'aimerais qu'on continue la discussion au retour. On a souvent parlé... Moi, je pense que Marc Bergevin va tenter, il ne fera pas de grands coups d'éclat, mais va tenter d'améliorer, d'amener un petit peu d'aide à son équipe. Je pense qu'ils veulent vraiment faire les séries. Ça serait plate de laisser ça glisser après une demi-saison qui amène un petit peu d'espoir quand même aux amateurs. Et au retour, si tu avais l'opportunité d'aider avec quelque chose qui ne te coûte pas les yeux de la tête, qui ne compromet pas tes plans d'avenir, est-ce que tu serais tenté d'aller chercher du renfort en attaque et sur le jeu de puissance ou encore à la gauche en défensive? Alors, réfléchis-y pendant quelques minutes et nous revenons tout de suite.
Parfait.
On a senti un certain essoufflement de l'attaque au cours des derniers matchs. Heureusement, ils ont marqué 3 buts, dont un dans un filet désert samedi pour battre l'Avalanche du Colorado. Tôt ou tard, ça doit te rattraper quand t'as pas d'avantage numérique. Danny, je reprends la question que je voulais te lancer juste avant la pause. On a depuis quand entraînement qu'on parle d'un partenaire pour Weber, d'un défenseur à gauche, que c'est le trou, la carence à combler dans l'alignement du Canadien? Je regarde ça, t'as le pire jeu de puissance de la Ligue nationale. Le 3 à combler, c'est pas de l'aide en attaque sur peut-être à l'aile droite ou ailleurs pour aider le jeu de puissance?
Ben, écoute, c'est sûr que au moment où tu te mets à regarder les choses qui font que le Canadien a du succès ou a moins de succès, là, tu te poses la question, si j'ai une pièce à mettre en place, qu'est-ce que cette pièce va être?
Oui.
Est-ce que
à un prix raisonnable aussi, fait que ça change aussi nécessairement la liste d'épicerie, là.
Oui. Mais moi, je continue de croire que le Canadien, dans les circonstances, a besoin d'aide à la défense. Je ne suis pas capable de m'imaginer le Canadien perdre un joueur clé à la défense actuellement.
Ils se débrouillent quand même pas mal. Ils se sont débrouillés tout le début de saison sans Weber. Mété a bien joué samedi. Je regarde la défensive des Islanders de New York, troisième meilleure défensive de la Ligue. Je regarde les noms, là. Ryan Pulock. Nick Leddy, c'est un bon joueur quand même. On le connaît depuis un petit bout de temps. Scott Mayfield. Johnny Boychuk, un vétéran. Adam Pellet. Tu sais, c'est pas une défensive de superstar, troisième dans la Ligue. C'est vrai que Lehner a toute une année devant le filet. Ça aide. Mais mettons que si t'en as juste un à aller chercher... Il me semble que je me dis, on se débrouille pas si mal, puis Price est replacé. J'aurais tendance peut-être à dépenser mes billes sur un attaquant, Danny. En tout cas, si c'est un défenseur capable d'aider des jeux de puissance.
Il y a quelque chose d'assez ironique, là. Bon, le Canadien est dernier dans la Ligue en avantage numérique, puis se bat pour une place en série.
Alors, oui.
Si tu veux aller chercher de l'aide, qui coûte pas cher, bon, ça, tu peux regarder vers un spécialiste de l'avantage numérique. L'autre fois, je t'ai parlé de Vanek, tu sais, t'es parti à rire, je t'ai dit,
j'étais surpris, mais j'étais bien...
Je suis sérieux dans le sens où tu veux avoir un joueur qui coûte pas cher, tu sais que c'est pas un joueur qui va passer du temps dans ton organisation après cette année, là. C'est vraiment un gars de fin de parcours. Moi, je pense que c'est un spécialiste qui est vraiment très bon en avantage numérique, il n'y a aucun doute là-dessus, là. Dans une équipe où il y a de la vitesse autour de lui, parce que lui, il avance pas. Mais ça prend des gars rapides autour de lui. Ça prend des joueurs. Tu dois vraiment placer des gars autour de lui qui vont se sacrifier un peu, là, qui vont jouer pour lui, des Lekkonen de ce monde. Mais en avantage numérique, c'est un autre dossier. Si tu le places en avant du filet, là, tu as une menace.
Ouais.
Parce que le Canadien n'a pas devant le filet. Je m'excuse, là, mais si tu as un joueur à laisser seul devant le filet. Là,
tu l'amènes pour ça. That's it.
Tu l'amènes pour ça.
Plante-toi là, mon homme, puis ouais, mon Thomas.
C'est ça. Alors là, tu peux avoir lui en bas. Tu dégages Gallagher. Tu fais jouer Gallagher dans le haut de l'enclave. Là, il est beaucoup plus efficace qu'en avant du filet. Pourquoi? Deux raisons. La première, c'est Gallagher, c'est un joueur de rondelle libre. C'est pas un joueur qui va voiler la vue du gardien. Puis c'est pas un joueur qui va contrôler la rondelle autour du filet. Il n'est pas assez habile pour ça.
Non.
Puis il est pas assez fort. Par contre, pour sauter sur une rondelle libre, marquer un but sur un retour de lancer, même lancer du haut du cercle sur son côté, là, du haut de l'enclave, pardon, sur son côté, capable de le faire, un tir appuyé.
Oui.
Là, tu as une combinaison plus intéressante avec un Vanek qui, lui, lorsqu'il est devant le filet, il fait des dommages. Tu sais, il est campé là, il est gros, il est dur à déplacer, et lorsqu'il a la rondelle, il les trouve, les joueurs, lui. Alors, c'est vraiment une dimension que le Canadien n'a pas du tout, qui est importante pour un avantage numérique, parce qu'après ça, en ce qui concerne les tireurs, je pense qu'ils ont assez de tireurs. L'autre chose qu'ils ont besoin, mais ça, ils ne le trouveront pas, c'est un joueur qui va vraiment être le quart arrière de l'avantage numérique. Tu sais, le genre de joueur que tu places, tu te dis,
ce que Drouin pourrait devenir en continuant de s'améliorer, non?
Ben, moi, ce que je trouve de Jonathan, c'est que il a des habiletés incroyables. Mais au niveau de la prise de décision,
ah, je suis d'accord.
C'est pas tout à fait ça.
Non, je suis d'accord. C'est pour ça que je te disais, c'est une passe risquée à Kotkaniemi samedi soir, parce que j'avais envie, même tantôt, quand on en parlait, de penser au coefficient au pourcentage d'efficacité des quarts arrière dans la NFL, par exemple, au football. J'aimerais savoir le pourcentage d'efficacité des passes tentées par Jonathan en avantage numérique cette année. Je sais pas s'il est en haut de 33%. Honnêtement, là.
Ce serait une statistique intéressante, là, les jeux qui sont complétés à partir d'une passe sur l'avantage numérique.
Mais je veux faire un suivi. Excuse-moi de te bousculer. Je veux faire un suivi sur quelque chose que je t'avais demandé jeudi. Pour le Canadien ou pour une autre équipe, on verra. Vendredi, on n'a pas eu l'occasion de discuter ensemble, mais je t'ai demandé jeudi, c'est sûr qu'une équipe qui va vraiment aller épier un joueur dans le but de faire son acquisition a besoin de plus qu'un échantillon, plus qu'un match pour se faire une tête. Mais je t'ai demandé avant le match jeudi, regardons J. Bouwmeester pour le fun, Danny. Oui. Regarde-le attentivement. C'est un vétéran, 35 ans maintenant, 6-4, 200 cylindres. Ça a donné qu'il a compté un but ce soir-là contre les Canadiens, mais dans sa performance d'ensemble, le vois-tu comme un gars qui peut encore aider une équipe, les Blues, qui vont faire des transactions là, avant la date limite des échanges. Oui?
Oui. Oui. Parce que c'est un joueur intelligent. C'est un patineur encore, malgré son âge, c'est encore un patineur. et c'est un joueur intelligent.
Devrais-tu aider le Canadien, par exemple, puisqu'on parle du Canadien?
On peut dire qu'à côté de Weber, là, je suis assez à l'aise.
Tu serais capable. Oui, c'est-tu une acquisition, si tu l'as à un prix raisonnable, qui vraiment tu peux dire, ça, c'est une acquisition vraiment dans le modèle que Bergevin a tenté au cours des dernières années, qui pourrait être peu coûteuse, mais avoir un impact assez direct sur certains besoins du Canadien?
Oui, c'est certainement pas un gars que je vois sur le long terme.
Non!
Mais je vois pas non plus sur le long terme Victor Mété jouer avec, avec Weber. Je pense pas que c'est ce que ça prend. C'est pas assez un passeur efficace pour ça. C'est un très bon patineur, transporte bien la rondelle, il fait tas de choses intéressantes sur la patinoire, mais c'est pas assez... son flair offensif... Tu sais, tu compares lui et le petit Girard. Là. Tu voyais les deux gars sur la patinoire en même temps. Il y en a un qui est un passeur, tu vois qu'il lui trouve les espaces libres, il trouve les joueurs, il distribue la rondelle. Victor, c'est un joueur qui va transporter la rondelle. Alors oui, pour amener la rondelle en territoire adverse, oui, pour faire des choses.
Ah, il est très efficace pour ça.
Très efficace. Même en avantage numérique, je ne serais pas du tout, ça ne me dérangerait pas de l'utiliser pour avoir une rondelle en territoire adverse puis aller organiser l'attaque. Une fois que tu es en place, puis tu as un arrêt de jeu, il n'est pas là. Là parce
je suis surpris qu'on ne l'ait pas essayé encore d'ailleurs.
Oui, mais pour amener la rondelle dans le territoire, sans l'ombre d'un doute. C'est il est très efficace pour ça. Mais, encore une fois, c'est pas là que ça se passe. C'est sur la qualité des passes. Moi, je pense que Boumister, ça pourrait être une alternative à court terme extrêmement intéressante pour le Canadien.
Sens-tu que le Canadien a un bon effort dans les jambes, mon Danny?
Il va en avoir besoin d'un bon parce qu'ici, ils sont en
feu. Danny, bon match avec Martin. On vous retrouve tout de suite après la pause plaisir. Pour l'avant-match. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Vous pouvez suivre Danny, entre autres, avec l'application qu'on vous propose sur le site du 98.5 FM. Alors, bon match tout le monde et à demain.